Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue pour le colloque de rentrée qui porte cette année le titre. Vous avez reçu le programme « Recherche et innovation, quel avenir ?» et qui, comme d'habitude, propose des interventions des professeurs du Collège de France et des spécialistes extérieurs. Une autre particularité de ce colloque est d'œuvrer en faveur d'une interdisciplinarité et de faire intervenir et dialoguer des représentants et représentantes des sciences exactes, des sciences humaines et sociales, ainsi que des acteurs et actrices du monde de l'économie, de l'industrie et de l'art. Ce colloque s'inscrit donc très clairement dans l'une des grandes devises du Collège de France, qui n'enseigne pas des vérités acquises, mais le savoir en train de se faire. En donnant la plus grande liberté aux titulaires de ces chaires d'organiser leur recherche comme ils ou elles l'entendent, sans dépendre des curriculums d'université ni des pressions de toutes sortes de lobbies. Le dépassement des frontières a depuis toujours caractérisé la recherche au Collège de France. Et si vous me le permettez, j'aimerais citer un cas qui concerne plus particulièrement mon domaine de recherche, les sciences bibliques. La première théorie scientifique sur la formation du Pentateuque fut en effet formulée au Collège de France, mais non pas par un littéraire, mais par un médecin, un chirurgien. Il s'agit de Jean Astruc, médecin de Louis XV, qui enseignait au Collège royal et qui publia en 1753 les conjectures sur les mémoires originaux dont il paroît que Moïse sait servir pour composer le livre de la Genèse. Dans ce livre, publié d'une manière anonyme, probablement il craignait un peu quelques critiques, il postula l'existence de différents documents qui auraient été à l'origine du livre de la Genèse. Et cette théorie qu'on a affinée par la suite et qu'on va appeler la théorie documentaire devient un pilier des sciences bibliques. Donc cette théorie est due à un chirurgien qui avait transféré ses compétences de découpage sur un tissu de texte. La recherche, l'innovation, les grandes découvertes se sont rarement faites dans un vase clos ou dans un cadre restreint. L'ouverture et la curiosité ont depuis l'Antiquité été les promoteurs de la recherche authentique. Et cela s'applique aussi bien à la philosophie qu'aux sciences dites exactes. De nombreux exemples existent de cette interaction entre les arts, les sciences humaines et les sciences expérimentales. La littérature peut être, comme va nous le montrer Antoine Compagnon, un vecteur d'innovation. Mentionnons aussi Leonardo da Vinci, particulièrement à l'honneur cette année, qui fut à la fois artiste, scientifique, peintre, sculpteur, poète, philosophe et en même temps inventeur, ingénieur, architecte et botaniste. Il n'existe pas de dichotomie entre les sciences et les arts. Toute démarche scientifique est aussi et en même temps artistique. La science et l'art se nourrissent l'un à l'autre pour repousser les limites de la pensée et de l'imagination et, ce faisant, faire apparaître du nouveau, de l'inattendu. J'aimerais citer Bertolt Brecht qui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, écrivait dans un recueil qui est appelé « L'achat du cuivre », je le cite, « Les gens qui ne comprennent rien à l'art ni à la science croient que ce sont là deux choses immensément différentes, dont ils ignorent tout. Ils imaginent rendre un service à la science en lui permettant d'être sans imagination. Et ils croient faire progresser l'art en empêchant quiconque d'en attendre de l'intelligence. Même si l'humanité a dû souvent et longtemps se passer du savoir comme de l'art, il reste que l'un et l'autre sont essentiels à ce que nous considérons être l'humain. » Ce qui est à l'opposé de toute recherche libre, c'est l'obscurantisme et le dogmatisme. Mais même certaines théories scientifiques peuvent devenir des dogmes et du coup empêcher l'innovation, comme l'a très bien montré Thomas Kuhn dans ce livre que vous connaissez tous, « The Structure of Scientific Revolutions ». Je pense que ça a été traduit en français. Il nous faut donc combiner, lier, recherche libre et innovation. Mais qu'entendons-nous par innovation ? Thème très largement utilisé aujourd'hui, dans toutes sortes de contextes, pour parler de start-up, de l'économie, de recherche fondamentale et appliquée, etc. Alors je me suis un peu renseigné, il y a un manuel qu'on appelle le manuel d'Oslo, qui rassemble des principes directeurs proposés pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation dans le cadre de l'enquête biannuelle sur l'innovation effectuée auprès de pays membres de la communauté européenne et qui a été réactualisée pour aussi intégrer l'innovation, ce qu'ils appellent l'innovation non technologique. Selon la définition donc de ce manuel, une innovation, je cite, est la mise en œuvre d'un produit, bien ou service, ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu du travail ou les relations extérieures. Voilà, ça c'est la citation. Et puis, quatre types d'innovations qui sont définies avec ce langage qui est propre à ce manuel. L'innovation du produit, l'innovation du procédé, l'innovation de commercialisation et l'innovation d'organisation. D'une manière plus large, on trouve beaucoup de prises de position et de publications selon lesquelles l'innovation est comprise comme résultant des découvertes scientifiques qui ont été faites dans le contexte des laboratoires publics, le CNRS ou les universités, ou dans les grandes entreprises privées. Cette compréhension de l'innovation peut s'appuyer sur de nombreux exemples. Ainsi, la découverte des rayons X est à l'origine de la radiographie. Le laser est un produit de la mécanique quantique. Rappelons encore que l'invention du microscope précède le développement des connaissances scientifiques dans le domaine de l'optique. Cette conception se combine avec la vision de l'économiste Joseph Schumpeter, qui est cher à notre collègue Aguillon, pour qui l'innovation technologique est le moteur même de l'économie. Une innovation majeure produit une phase de croissance, mais cette innovation produit également la destruction des anciennes structures économiques. Il est intéressant de noter que Schumpeter insiste sur l'aspect irrationnel de l'innovation, comme la joie de créer, le goût de l'aventure, le goût de puissance, et ainsi de suite, qu'il met au centre donc, de l'innovation, et c'est donc la figure de l'entrepreneur qui est moteur de l'économie et de l'innovation. La question se pose cependant de savoir s'il faut comprendre le lien entre recherche et innovation d'une manière linéaire, en plaçant l'innovation comme résultat nécessaire de toute recherche de valeur. Un tel modèle risque en effet de véhiculer une conception instrumentale de la recherche, faisant de la recherche la servante de l'innovation. Le lien entre recherche et innovation est en effet plus complexe. Certaines innovations qui ne sont pas des produits ne dérive pas de la recherche scientifique. C'est le cas de la sécurité sociale ou de limitation du temps de travail, du congé payé, innovation majeure du XXe siècle. Une autre innovation, c'est les portables. Vous savez, les portables ont aussi un petit bouton qu'on peut éteindre. Voilà, donc quel est le lien entre ces innovations et la recherche? Intervient ici sans doute la sociologie, qui ne se contente pas de décrire la vie sociale, mais qui tente de répondre aussi aux problèmes que cette vie sociale peut véhiculer et que peut du coup être aussi à l'origine d'innovation. Les innovations que peut produire l'art ne se fondent pas sur des résultats scientifiques, mais elles peuvent refléter une société en train de se réinventer. Certaines innovations peuvent être dans l'air du temps, sans qu'on puisse attribuer la paternité à un personnage précis. On pensera, à titre d'exemple, à l'origine du calcul infinitésimal découvert à la fois par Leibniz et Newton, il semblait aussi un japonais, certes pour des raisons différentes, mais conduisant à une innovation importante dans les mathématiques. On l'aura compris, on ne peut réduire la relation de la recherche à l'innovation à une simple relation d'application. La recherche fondamentale contribue en effet largement à développer des connaissances qui ouvrent le champ des possibles de l'innovation. Le même constat s'applique aux sciences humaines et sociales qui sont parfois délaissées dans certains discours utilitaristes sur l'innovation. Le but de ce colloque est justement d'innover quant à notre compréhension du lien entre recherche et innovation. Ce n'est pas par hasard que la première communication de Serge Haroche est consacrée à une réflexion sur la nécessité d'une recherche, entre guillemets, inutile, qui, comme le montrera une autre communication, a profondément besoin de curiosité. Plusieurs intervenants déclineront alors la nécessité du lien entre recherche et innovation, mais dans différents domaines, comme la transition énergétique, la recherche en physique ou en biologie. On s'interrogera sur la voie des sciences humaines dans cette aspiration à l'innovation et on tâchera de mieux comprendre certaines postures scientifiques d'aujourd'hui. Est-ce que la recherche peut ou doit elle-même devenir objet de recherche? Quels sont les risques acceptables, voire nécessaires, que doit assumer une recherche libre? Quelles sont les interactions possibles entre la recherche en sciences expérimentales et en sciences humaines et sociales? Quelle est la place de l'art? L'importance de l'Europe? Voilà une tentative de résumé des différents thèmes que nous allons aborder dans les deux jours à venir. J'aimerais chaleureusement remercier toutes nos intervenantes et tous nos intervenants, dont certains sont venus de loin, d'avoir accepté de réfléchir sur ce lien entre recherche et innovation. Je suis sûr que les différentes communications ainsi que les discussions qu'elles vont provoquer permettront d'aborder le sujet recherche et innovation selon de nouvelles perspectives. J'aimerais à la fin aussi remercier très chaleureusement la Fondation Hugo qui a contribué à la mise en œuvre et à la réalisation de ce colloque. Et je donne maintenant la parole à Dominique Charpin qui va présider ce matin et qui va peut-être aussi vous expliquer, parce qu'il m'a expliqué ça hier soir, donc je pense qu'il va vous l'expliquer aussi, quel est le lien entre le thème, les sciences humaines, les sciences exactes et la photo que vous voyez là. Alors bon colloque et bonne matinée.
En effet, l'image qui a été choisie pour illustrer le colloque d'aujourd'hui, de prime abord, pourrait paraître très orientée, puisque c'est ce fameux télescope qui a été construit dans les Andes chiliennes et qui est donc un concentré de technologies de pointe. Mais quand on y réfléchit, et donc d'une certaine façon, chercheur en sciences humaines, je pourrais trouver qu'il y a là un impérialisme insupportable. Pas du tout. Pas du tout, parce que quand on sait à quoi sert ce télescope, il sert à scruter l'univers le plus lointain. Le plus lointain, c'est-à-dire le plus ancien. Et l'objectif, en fait, de nos collègues astrophysiciens, un de leurs objectifs en tous les cas, c'est d'aller le plus loin possible vers l'origine de l'univers. Et d'une certaine manière, donc, leur curiosité prolonge celle de gens comme moi qui se penchent sur les origines de nos civilisations. Et donc, en fait, cette image, elle est tout à fait emblématique de notre curiosité commune, que nous soyons chercheurs dans ce qu'on appelle les sciences humaines ou dans les autres sciences. Et d'une certaine manière, donc, j'ai tout à fait approuvé le choix de cette illustration pour rendre compte de notre thème.